Alors, le mouvement hypercroissance, pour moi, c'est vraiment d'embrasser la dichotomie et les extrêmes de dire on peut avoir une business où on a des employés heureux quand on génère de l'argent. On a une business qui a de la discipline, puis on peut être créatif aussi. On a une business où des entrepreneurs qui réussissent sont souvent très humbles, très empathiques, mais ambitieux.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 201e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook, et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques afin de débuter l'année en force, venez discuter avec moi sur LinkedIn. À chaque semaine, je discute avec des dizaines d'entre vous et les discussions nous amènent continuellement à trouver des nouvelles approches afin de faire croître votre entreprise. Le coaching d'affaires, quand en a-t-on besoin en tant qu'entrepreneur? Quand on débute? Quand on atteint une masse critique? Ou toutes ces réponses convient également? Pour le 201e épisode du podcast, j'ai la chance de recevoir Cléo Maheu, instigatrice du mouvement Hypercroissance et coach d'affaires depuis plus de 10 ans. Cléo, qui a coaché les plus grands entrepreneurs québécois, nous explique aujourd'hui les étapes qui l'ont amené à être autant en demande dans la communauté. On discute également d'un défi qui n'était pas prévu dans la vie de Cléo. Mais avec toute l'énergie qu'elle possède, elle nous explique comment elle arrive à surmonter cette rude épreuve. Sans plus attendre, ma discussion avec Cléo Maheu. Cléo Maheu, tu es la fondatrice du mouvement Hypercroissance, une organisation que tu as lancée en septembre 2010. Ton entreprise de coaching a aidé plusieurs grandes entreprises au Québec lors de cette période. On peut d'ailleurs penser aux Aliments Lester's, Roy ou encore même Damotech. En plus de ton travail de coach, tu as également traduit trois ouvrages anglophones à succès. Cléo Maheu, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Merci Antoine, très heureuse que tu me reçoives. Mais sachez que j'ai reçu Antoine sur mon podcast si vous voulez savoir toute son histoire. On se donne l'envers de la médaille aussi. Hein?
Exact, on se renvoie l'appareil, c'est exactement ça Cléo. Puis peut-être avant de rentrer dans la conversation du jour, est-ce que c'est possible pour toi d'expliquer à notre audience d'entrepreneurs tout ce que tu fais avec le mouvement Hypercroissance, ou plutôt comment tu arrives à humaniser l'hypercroissance?
Oui, parce qu'on va se le dire, on va se dire les vraies choses. Le mot hypercroissance fait souvent peur. Et à l'origine, dans le fond, si on regarde hypercroissance en anglais, scaling up, et l'inspiration des gazelles est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires en 5 ans, de 3 à 5 ans. Mais moi, au fil des années, j'ai réalisé que les gens qui voulaient vraiment de l'hypercroissance humanisaient l'hypercroissance. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment inspiré du principe de Jim Collins qui parle dans son livre « Build to Last » de dire « Est-ce qu'on peut embrasser le génie du ET, donc le « et », c'est-à-dire embrasser les extrêmes ?» Alors, le mouvement hypercroissance, pour moi, c'est vraiment d'embrasser la dichotomie et les extrêmes, de dire « On peut avoir une business où on a des employés heureux quand on génère de l'argent. On a une business qui a de la discipline, puis on peut être créatif aussi. On a une business où des entrepreneurs qui réussissent sont souvent très humbles, très empathiques, mais ambitieux. Donc, c'est vraiment le « et » qui m'inspire là-dedans, et c'est ça que j'ai le goût de pousser à son maximum dans un monde d'entrepreneurs.
Et croyez-moi, le mouvement hypercroissance, c'est vrai. J'ai été dans une conférence, je pense que c'était à l'automne, que Cléo donnait pour le lancement de son nouveau livre qu'elle traduisait. Il y avait du monde, il y avait beaucoup de monde qui connaissait et qui applaudissait la vision, les angles d'approche que Cléo peut avoir. Donc, c'est assez fascinant tout ça. Mais bon, Cléo, en faisant mes recherches, là, je me suis rendu compte que c'est pas en business que tu as étudié, c'est en microbiologie ainsi qu'en génie, je crois bien, en génie chimie. Où est-ce que tu as fait l'entièreté de tes études à l'université, je pense que c'était à l'université Laval, si je me trompe pas. Est-ce que c'était dans tes plans de départ de faire une carrière en affaires, ou clairement tu te voyais davantage dans le milieu de la santé?
Si je te dis que, en fait, c'est une bonne question, là. Si je te dis que ma première journée de maternelle, je trouvais ça plate, je trouvais que la prof allait pas assez vite, j'ai demandé à tous les enfants de s'asseoir en rond, puis c'est moi qui ai fait la professeure, puis on a joué au téléphone, OK? Fait que ça, mon leadership a commencé ma première journée de maternelle et ça s'est poursuivi au secondaire. J'étais toujours présidente de classe, présidente de l'école, présidente de ça. Fait que dans le fond, j'ai voulu aller en médecine. Et j'ai pas eu les notes pour aller en médecine. Ça, c'était vraiment l'époque où ça prenait des notes super importantes. Et j'avais toujours très bien réussi à l'école. Et moi, j'ai une famille de médecins. Donc, mon père m'a dit, faut que tu ailles en médecine. J'ai pas été acceptée. J'étais en microbiologie. On s'entend-tu qu'une fille qui aime du leadership et qui aime ça, j'ai pas vraiment aimé la microbiologie, mais j'ai eu une éducation de terminer ce que je commençais. Alors, j'ai terminé mon bac, mais je l'ai combiné un bac en génie chimique. Et j'ai fait mes deux bacs en 6 ans. Parce que j'ai jamais eu les notes pour aller en médecine, même en microbiologie, parce que là, j'étais une fille célibataire à l'université. Je vais vous épargner les détails. Mais ceci dit, j'ai réussi à combiner les deux bacs. Et j'ai dit, je vais m'en aller plus dans le pharmaceutique qui est proche, dans le fond, de la médecine. Toujours dans le but d'inspirer, d'aider, d'accompagner. C'était ça la base, puis d'être un leader dans ce que je faisais.
Et tu as travaillé 9 ans là-dedans, de 2000 à 2009, dans l'entreprise White, je crois bien. Et c'est quand même une bonne partie de ta carrière, là, 9 ans dans une organisation. Quels ont été les éléments peut-être de ton séjour dans l'entreprise qui t'ont tranquillement peut-être amené à vouloir te lancer à ton compte? Est-ce que tu es capable de nous parler un petit peu de cette période-là?
Oui, ben oui. En fait, j'ai décidé de rejoindre Wyatt à l'époque, qui a été vendu après. Aujourd'hui, c'est GSK. Il y a eu tellement de merge and acquisition, dans le fond, au niveau au niveau pharmaceutique. Et si je fais le bilan de ces 10 années-là, dans le fond de carrière, j'étais le mouton noir. J'ai toujours été le mouton noir un peu d'une grande organisation. Je voulais changer les choses. Alors, c'était jamais assez, on dirait. Tu sais, j'étais très dans un volet très ingénierie. Je trouvais qu'il y avait, ça manquait de monde. Fait que là, c'était trop process. Là, j'ai été superviseur de la ligne d'Advil. Tu sais, toute la production, la ligne de packaging d'Advil. J'avais 50 employés, je gérais tout ça. Et là, je trouvais que ça manquait de process. Fait que j'avais toujours de la misère à me situer, d'où ma dichotomie du début entre humaniser l'hypercroissance. C'est ça la réalité de ma vie. Fait qu'à toutes les fois que je faisais un travail, c'était soit trop human, trop technique. Et c'est là que j'ai trouvé une job à l'intérieur de l'entreprise qui était d'être chargée de projet en amélioration des processus d'affaires où là, on prenait une unité d'affaires et je devenais comme vraiment là, j'avais une vision 360 puis là, ça m'intéressait. Fait que j'ai toujours été le disrupteur, mais en fait, puis là, j'ai eu une grosse déception parce que je me rappelle, mon patron m'avait dit, Cléo, tu monteras jamais dans l'organisation. En voulant dire, j'étais trop comme disruptor, tu sais, je perturbais un petit peu trop les choses, pas assez politiques pour monter en ligne droite. Et il dit, toi, tu vas faire des mouvements latéraux. Ça m'avait tellement découragée parce que je mettais des heures puis je m'investissais. Et là, on était rendu à peu près en 2007 et enceinte de mon fils et mon père décède subitement. J'avais 3 mois de grossesse d'une hémorragie cérébrale. Donc, on l'a perdu à 56 ans. Et enceinte de mon fils, et là, ça a été vraiment un gros... Ben, je pense, comme la plupart des entrepreneurs aussi, ça a été un gros wake-up call de dire qu'est-ce que j'aime profondément dans la vie. Je faisais plein de choses, mais je me sentais pas sur mon X. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment décidé de partir à mon compte. Puis là, j'avais fait une formation de Lean Six Sigma. Tu sais, c'était beau, le pharmaceutique, ça a été la plus belle école de ma vie. J'avais accès aux plus grandes formations, aux plus grandes tendances. Tu sais, la diversité, j'étais sur le comité de diversité et culture là, il y a 20 ans. Là, tu sais, juste pour te donner une idée. Fait que, tu sais, il y avait tous ces échanges. On avait fait un livre de recettes avec toutes les nationalités dans l'organisation. Fait que c'était extraordinaire. J'ai dit, tant pis, je pars à mon compte, je vais m'essayer. Alors, après la naissance de mon fils, c'est là que j'ai démarré hypercroissance.
Donc là, Cléo, tu deviens coach d'affaires. Et là, moi, la question que je me pose, c'est comment tu arrives à bâtir, de un, bien entendu, l'expertise qui vient avec ça, de deux, la crédibilité, et ultimement, quand tout ça est acquis, comment on arrive à aller chercher des clients? Parce que là, tu opères dans une catégorie qui est différente à celle que tu étais avant. Comment tout ça s'est mis en place? Ça n'a pas dû être facile.
Non, Pas du tout. Écoute, je suis partie et moi, et puis je te raconte, au début, j'avais une certification de Lean Six Sigma. J'ai dit, je vais m'en aller en amélioration continue, je vais travailler 3 jours semaine, ça va être facile. À ce moment-là, l'hypercroissance n'existait pas pour moi. Et à un certain moment donné, je travaillais avec des sous-traitants, puis j'étais consultante pour d'autres gens. Puis un des propriétaires m'a dit, mets-toi une petite jute courte, puis mets-moi 50 cartes d'affaires dans la petite boîte. Ici, là, en plexi, là, tu sais, pendant la journée, un congrès de l'IDP. Et là, j'ai fait, OK, non, ça marche pas, je travaille prêt, je ne puis jamais pour d'autres consultants. Alors, j'ai décidé de trouver ma voie. Puis, il y avait trop de monde qui faisait de l'amélioration continue, même si j'étais certifiée Black Belt et tout ça. Alors, j'étais en quête de trouver qu'est-ce qu'il y a d'unique. Alors, de fil en aiguille, j'ai réussi à trouver le livre Mastering the Rockefeller Habits, le livre de Vern Harnish à l'époque. J'ai réussi à trouver ce livre-là et un contact avec Frédéric Luca de Prima Ressources. Et lui m'a dit, écoute, il cherche des coachs, Gazelle, t'aurais pas le goût de te lancer là-dedans. Alors, je me suis lancée dans l'aventure, mais il faut retourner en 2010. À l'époque, j'ai joint l'organisation, j'étais la plus jeune, une femme, et j'étais francophone. Fait, quand tu parles que c'est difficile, il n'y avait aucun Américain qui me parlait parce que c'était tous des Américains qui avaient been there, done that, donc qui avaient eu leur entreprise, qui avaient vendu leur truc. Et moi, je suis une coach de 32 ans à l'époque et je veux devenir la meilleure coach de la francophonie comme objectif. Et là, dans le fond, j'étais la première femme et il y a personne, je m'en rappelle, j'avais levé la main pour poser une question, il y a pas personne qui m'a répondu. Alors, ça m'a juste fâchée. Je me rappelle d'avoir écrit dans mon livre, j'ai dit, regarde, dans un an, là, je vais être certifiée puis je vais mettre ça sur la map au Québec. Alors, j'ai traduit tous les outils. J'ai réussi à avoir ma certification. Et là, j'ai commencé à la base comme tout le monde. Tu sais, j'ai fait les déjeuners BNI, j'ai été dans des chambres de commerce. C'est toutes les étapes qu'on fait comme entrepreneur pour se faire un réseau. Et de fil en aiguille, j'ai été capable. Mes premiers événements, c'était avec ma famille, là, tes amis, ta famille, t'as 12 personnes, tu fais tes événements. Aujourd'hui, cette semaine, j'ai lancé 2 événements, j'avais 50 personnes. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir des fois le chemin parcouru puis de célébrer. Où ça a vraiment démarré, c'est quand je suis rentrée partenaire de IO Montréal. Donc, IO Montréal, dans le fond, le fondateur de IO Montréal est Vern Harnish, le fondateur de Scaling Up, la méthodologie. Alors, j'ai joint ce groupe-là comme partenaire et là, je me suis fait connaître. Et là, ça a été vraiment une question de notoriété, de livrer de la grande qualité, d'être bien préparé. Et là, de fil en aiguille, j'ai coaché l'équipe de direction du groupement des chefs d'entreprise, l'équipe de Femmes Essor, maintenant Evol, coaché l'équipe, le comité de direction de l'école d'entrepreneurship de base. Alors là, ma méthodologie et la façon que j'avais de procéder a fait des petits de fil en aiguille, même YPO Montréal, j'ai vraiment eu la chance de tomber dans des bonnes tales et de qualité d'entrepreneur. Mais souvent, les gens, tu le sais, Antoine, les gens vont nous regarder et vont dire, elle est coach, c'est facile, je vais faire ce qu'elle fait. Mais tu sais, c'est 10 ans de travail acharné pour arriver à ce réseau-là, tu sais.
Puis au final, je veux dire, les chiffres parlent pour toi, Cléo, parce que... Et c'est quand même assez fascinant tout ça, parce que tu es dans une catégorie où est-ce que le bouche-à-oreille peut être facile. Positivement, mais négativement aussi, on est d'accord que, je veux dire, ça coûte un certain montant de travailler avec toi pour des raisons évidentes. Donc, clairement, les gens vont avoir des attentes. Si ça se déroule bien, ça peut être la plus belle rencontre de leur vie. Mais j'imagine qu'à un certain point, ça doit amener une pression aussi de ton côté. Mais si les choses se passent bien derrière et que tu parles à toute la communauté d'IO Montréal, par la suite, j'imagine qu'on n'a plus besoin de faire de développement d'affaires, là.
Non, exactement, exactement. C'est ça. Tu sais, je pense que la notoriété s'est bâtie, tu sais, puis c'est comme, tu sais, ultimement, la résultante de tout ça, c'est oui, les bonnes tales. Puis même au sein de l'organisation Gazelle, je suis devenue un train de trainer. Donc, c'est moi aujourd'hui qui forme les coachs à travers le monde. Tu sais, je vais être une des coachs et j'ai des mentors à travers le monde aussi que je vais former, tout ça. Fait que, tu sais, cette notoriété-là, je l'ai bâtie, puis ça l'a donné que, tu sais, dans le fond, tout le monde rêve. Quand tu pars en affaires, tu rêves d'avoir la crème de la crème. Bien, je peux dire que j'ai cette chance-là, mais effectivement, tu comprends ce que je veux dire, la pression, elle est très forte. parce que tes clients arrivent de... Tu leur fais, t'animes leur retraite stratégique la semaine suivante, puis ils disent, j'arrive du London Business School, c'est extraordinaire ce que j'ai appris. Et là, mais moi, j'ai développé mon réseau aussi, dans le sens que j'amène mes clients voir Jim Collins. Tu sais, j'ai une équipe, j'ai 3 clients qui s'en vont voir Jim Collins la semaine prochaine. Fait qu'aussi, je me suis développé un réseau à l'international en étant trainer pour amener la meilleure information à ces gens-là. Mais c'est une question de challenge et de défi, mais moi, j'aime ça. Tu sais, je voudrais pas non plus pas créer de la valeur.
Et bon, ce qui est intéressant avec toi aussi, Cléo, c'est que on dirait que cette exclusivité-là qui tourne un petit peu autour de toi, là, je te donne un point de vue de l'externe de dire, on travaille avec Cléo Maheu, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la chance de travailler avec Cléo Maheu, et comment tu as fait pour travailler avec elle? Est-ce que ça... Et moi, j'ai la chance d'être dans un groupe d'affaires de gens qui ont travaillé avec toi et qui n'ont que des bons mots à ton égard. Et je trouve que c'est un petit peu c'est ce marketing-là, ce branding-là que tu as créé autour de toi. Et ma question pour toi maintenant est la suivante. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est cette exclusivité-là, finalement, t'a servi un petit peu dans ton développement à travers le temps?
Ben, j'y aurais pas pensé dans le sens que, en quelque part, c'est une question de capacité. Tu sais, je veux dire, quand t'es un coach, tu sais, la base, t'es un coach. Puis, c'est juste pour te donner une idée, un coach, normalement, en termes de jours d'exécution, va faire à peu près 80 jours d'exécution. Et moi, j'avais tellement de demandes, je voulais tellement bien me servir que je suis même montée jusqu'à 140 jours, 150 jours d'exécution par année avec des clients, plus d'un portefeuille d'une vingtaine de clients. Puis j'avais encore des demandes. Et là, les gens disaient, je veux travailler avec toi. Fait que nécessairement, oui, d'un point de vue, ça crée ce sentiment, cette rareté-là, tu sais, de Cléo n'est pas disponible. Ça m'a permis aussi d'avoir une certaine exclusivité, mais j'ai évolué aussi au courant de mon offre pour créer encore plus de valeur pour ces gens-là. Mais je le sais, puis les gens parlent de moi, puis souvent vont dire, tu vas travailler avec Cléo. Ah, ben non, elle prend pas personne. Ou si tu travailles avec Cléo, watch out, tu vas te faire te challenger, puis t'es mieux d'être prêt. Fait que je sais que j'ai une réputation, mais je vis avec.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours.
C'est une belle réputation. C'est une belle réputation et c'est tout à ton honneur. Et j'imagine que ta réputation clairement a été impactée. Ça a dû être un de tes premiers piliers de ta croissance. C'est la traduction des différents livres que tu as fait. Donc, pour les nommer, Scaling Up, Mon masque à oxygène en premier et le tout dernier, d'ailleurs, c'est de ce que je disais un petit peu en début de podcast, le lancement que tu as fait à l'automne, Le leader en nous. Comment ça se met en place, la traduction d'un livre avec ses différents auteurs? Est-ce que c'est un processus qui est long? Où est-ce qu'on débute tout ça?
En fait, pour refaire l'histoire de pourquoi j'ai traduit le livre, c'est que quand on suit la méthode hypercroissance, on se définit toujours un BHAG, un but hautement audacieux et grandiose. Et moi, je m'étais mis comme BHAG la journée où personne m'avait répondu aux États-Unis. J'ai dit, je veux être la référence dans la francophonie pour la communauté Scaling Up. Okay? Et je me suis approprié le mot en français hypercroissance. J'ai les droits d'auteur du livre, la propriété intellectuelle m'appartient. Alors, c'est là qu'en cours de route, j'ai décidé de... J'avais mis ça comme objectif, j'avais aucune idée. Mais mon mesurable, c'était de dire, je veux que Vern, le fondateur, vienne parler devant 500 entrepreneurs francophones. Puis pour moi, je vais faire check, j'ai réussi mon objectif. Et Vern a sorti son nouveau livre. Il a transformé les habitudes, Mastering the Rockefeller Habits, en scaling up. Et là, j'ai décidé de copier mon ami Nicolai, qui avait déjà fait ça, lui, en Allemagne. Donc, avoir les droits d'auteur pour le traduire en allemand. Et je suis très proche de Nicolai. J'ai dit, regarde, Nicolai, j'ai goût de faire la même chose que tu as fait en Allemagne. Je veux le faire en français. J'ai fait une entente avec Vern. Comment ça fonctionne? C'est qu'il y a quand même des royautés à donner à Vern. Ça lui appartient. Mais ceci dit, j'ai les droits d'auteur, j'ai la propriété intellectuelle. Et c'est là, je pense, que ça l'a vraiment donné la notoriété et la crédibilité de le faire. Maintenant, tu me dis traduction de livre, j'avais aucune idée. Moi, je veux traduire le livre pour atteindre mon BIAG. Et là, je fais affaire, je communique toutes les maisons d'édition. Personne veut traduire mon livre. Personne, parce que c'est du petit volume. Transcontinental avait fermé sa division affaires, etc. Alors, il y a toujours des solutions à tout. J'ai décidé de créer ma propre maison d'édition. Je l'ai appelée les éditions Gazelle et j'ai décidé par moi-même. Donc, non seulement j'ai traduit, mais j'ai édité les livres que je fais en ce moment. Et je me suis tout trouvé un système maison. Donc, c'est-à-dire que j'ai un traducteur, je veux un traducteur francophone. Alors, j'ai un traducteur francophone que j'ai connu, Marc, qui est à Singapour, mais qui, lui, est un Français de France. Pour toujours avoir un Français international, il va faire une première passe. Après ça, je vais avoir une réviseur ici, mais moi, je le revise tout pour donner le langage d'affaires qu'on utilise quand même pour que les gens le comprennent, que ça coule. Fait que je mets énormément de jus de bras en bon québécois pour que ces livres-là soient d'une valeur intéressante à lire, tu sais, que la traduction soit de qualité. Et après ça, j'ai une réviseur et là, on a Sonia dans mon équipe qui va envoyer ça, déposer ça à la bibliothèque des archives. On a notre numéro d'ISBN. Donc, on fait toute maison, là, tu sais. Et jusqu'à tout récemment, c'était ma collègue Sonia qui avait toutes les boîtes de livres dans son garde-robe chez elle, parce qu'on les imprime aussi. Il y a bien des gens qui font des livres et qui les impriment pas. Moi, je voulais quand même les imprimer. Je me suis dit, c'est ma plus belle carte d'affaires. Et c'est là que ça a commencé. J'ai fait le lancement du livre en français au sommet du G500, devant 500 entrepreneurs francophones. Vern est venu et j'ai donné un livre. Scaling up, hypercroissance à tous les bancs. Mais aujourd'hui, on m'en parle encore. On dit, j'ai ton livre quand t'as fait ça, il y a en 2019, etc. C'est plus en 2019-2016, je pense. Alors, ça fait quand même 7 ans de ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas simple, mais aujourd'hui, là, on a un 3PL, on s'est structuré et tout.
Ben oui.
C'est le fun.
Et l'impact sur ta croissance?
Incroyable. Mm. Parce que, puis tu sais, dans le fond, aussi les coachs, souvent ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours être en renouvellement de leur main d'œuvre. Mais moi, je garde mes clients longtemps, tu sais, fait que je les garde, tu sais, par exemple, pour Roy Lester, ça fait, tu sais, plus des 10 ans, des 5 ans, ça fait long, je travaille longtemps avec mes clients. Mais pourquoi je suis capable de renouveler mon offre avec du nouveau contenu de qualité? Fait que la logique dans ma traduction des livres, c'est qu'au début, je me suis concentrée sur la croissance des entreprises. Là, j'ai réalisé que mes entrepreneurs, ils aiment ça, ils croient, ça va bien, on met une discipline, les meilleures pratiques d'affaires, ça va bien. Mais par après, ils s'oublient, ils sont tellement passionnés par la business, puis enfin, ça décolle, ça roule. Fait que j'ai traduit le deuxième ouvrage, « Mettre son masque à oxygène » en premier. Fait que j'ai ramené toute cette connaissance-là dans mon réseau. Et là, quand les gens réussissent à bien croître leur entreprise, à bien prendre soin d'eux, qu'est-ce qui arrive? Bien là, il y a envie de donner au suivant puis d'avoir un impact, d'où le livre « Le leader en nous » qui est vraiment de s'élever dans son rôle de leadership puis de créer de la valeur.
Et là, Cléo, je suis à peu près certain qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, ils se disent « Bon, OK, on entend tout ça. » Mais là, Cléo, elle n'a pas beaucoup de place pour des nouveaux clients. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens dans notre audience qui auraient peut-être envie de travailler avec toi. Et là, tu as dû l'entendre souvent, ça, et tu as changé ton offre de service. Hein? Tu as changé ton offre de service maintenant. Donc, tous ces apprentissages-là que tu as fait avec tes clients, que tu nous expliques aujourd'hui, tu fais encore, j'imagine, un petit peu de coaching en un à un, mais globalement, tu as dû évoluer, tu as dû faire évoluer ton offre de service.
Oui. Effectivement. Pourquoi? Parce que, en fait, j'ai défini un deuxième BIAG. La vraie raison, ma raison d'être à moi, c'est toujours d'inspirer puis d'être complice du succès des entrepreneurs. Mon premier objectif grandiose, c'était d'être la référence en francophonie. Mais mon deuxième objectif, je me suis dit, je vais avoir un impact sur 100 000 entrepreneurs. Parce que c'est quoi mon leg? Parce que je sens que j'ai des connaissances, je sens que je peux apporter beaucoup. Et puis, je voulais pas non plus le laisser à un groupe restreint. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme j'avais la propriété intellectuelle de ces ouvrages-là, j'ai développé, j'appelle ça, c'est un mot qui n'existe pas, mais que j'aime bien utiliser à l'interne, la productification de mon offre. Alors, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je veux pouvoir aider plus d'entrepreneurs, mais toujours en restant petite. Puis là, les gens vont dire, mais pourquoi t'as pas embauché 10 coachs? Puis ça m'intéressait pas en tout le modèle traditionnel, que moi, j'allais devenir une gestionnaire de coach. Ça m'intéressait pas. Mais je voulais quand même avoir un plus grand impact sur un plus grand volume. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai développé les formations en ligne de mes livres. Et de là, j'ai développé des bootcamps. Et maintenant, il y a des cohortes de mastermind. Puis aujourd'hui, là, Antoine, puis tu dois le voir, mais tu sais, l'intelligence collective est au cœur de tous les apprentissages et la croissance des humains. Tu as parlé tantôt de ton groupe, comment c'est important pour toi. Alors, j'ai décidé de développer des groupes d'entrepreneurs où on met de l'avant cette méthodologie-là et on se sert de l'intelligence collective, mais non seulement les entrepreneurs, mais j'implique les équipes. Ça se fait pas au Québec. Il y en a pas qui font ça encore, où l'équipe des directions est partie prenante des réflexions stratégiques et des meilleures pratiques d'affaires.
J'ai eu une discussion récemment avec Jonathan Léveillé qui vient très souvent sur le podcast, que d'ailleurs je pense que tu connais bien. On discutait ensemble de l'impact qu'un groupe d'affaires peut avoir sur nous et je pense que Cléo va dans la même lignée avec ses masterminds. Ça change notre manière de voir les choses et c'est important de discuter, de challenger des idées qu'on peut avoir parce que trop souvent, et à mon avis, tu dois le voir, Cléo, un entrepreneur, c'est souvent face à son miroir. En train de se poser des questions. Et bon, peut-être qu'on peut se trouver beau pendant un certain temps, mais à un moment donné, c'est pas de cette manière-là qu'on va être capable de faire croître notre entreprise. Là, il y a une vraie valeur ajoutée à être entouré d'autres entrepreneurs.
Oui, parce que tu sais, l'entrepreneur ne veut pas être toujours seul au sommet. Et en fait, puis moi, je me rends compte que je sais pas comment je fais, mais je vois un peu les tendances. Tu sais, ma formation en ligne, je l'ai faite avant la pandémie. Puis tout le monde me disait, mais voyons donc, pourquoi qu'elle fait de la formation en ligne, elle? Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, aujourd'hui, on s'entend-tu que c'est une combinaison de tous ces produits-là? C'est quelqu'un qui vient dans le mastermind, va avoir accès au contenu en ligne, va avoir accès à des conférences en virtuel, mais au trimestre, on va faire des journées en présentiel. Et là, on va vraiment prendre le temps de connecter. Mais ce que j'arrive à faire aussi, c'est de connecter non seulement les entrepreneurs entre eux, mais connecter un groupe de gens d'en vente entre eux, de connecter un groupe de gens de finance, un genre pour qu'ils puissent échanger sur les meilleures pratiques. Puis ça, c'est souvent plus difficile à faire parce que je trouve que les gens sont beaucoup isolés et devant leur écran. C'est comme, c'est dur de les faire sortir. Fait qu'on se doit d'innover dans nos façons d'accompagner les gens avec qui on travaille. Puis toi, tu fais la même chose, tu sais, on travaille ensemble et j'adore le travail qu'on fait ensemble, mais tu es dans un modèle comme ça, hybride, pour développer les compétences, les capacités, tout en intervenant puis en créant de la valeur avec tes connaissances. Ça te prend 5 minutes, tu m'alignes, j'adore ça, tu sais.
Ben oui. Non, effectivement, il y a de l'évolution dans les modèles d'affaires et je pense que tu étais capable d'embrasser ça de la meilleure des manières possibles parce que tu as été honnête avec toi-même. Tu voulais pas devenir une gestionnaire de coach, mais tu voulais croître, tu voulais faire de l'hypercroissance, un mot que toi et moi, on aime beaucoup. Oui. Et tu as été capable de trouver une structure, un chemin pour tranquillement t'amener à destination. Cléo, un dernier point que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui qui est plus triste, mais qui au final, avec un peu de recul, démontre à quel point t'as cette force, cette persévérance, cette résilience-là. Malheureusement, dans les derniers mois, t'as été diagnostiqué avec un cancer du sein. Puis bon, contrairement à ce qu'on peut lire, à ce qu'on peut penser, t'as perdu aucun de tes cheveux, malgré plusieurs traitements de chimio. Je pense que c'était excessivement important pour toi. On en avait discuté d'ailleurs ensemble. Je pense aussi que tu as échangé avec Sophie Rice, qui est venue sur notre podcast l'année dernière sur le podcast Hypercroissance, qui nous avait expliqué un petit peu la structure qu'elle avait mis en place pour aider les femmes à comprendre un petit peu plus ce qui se déroule quand malheureusement on est diagnostiqué avec un cancer. Comment tu as abordé ce défi-là et comment ça se déroule en ce moment?
Ben, je te remercie parce que c'est toi qui m'as mis en contact avec Sophie. Et aujourd'hui, je suis sur le CA de l'organisation gardetescheveux.org. Donc, on est 4 filles brillantes, toutes des femmes accomplies, des femmes qui ont de la drive. Et honnêtement, on a pour mission de changer le visage du cancer un cheveu à la fois. Donc, comment j'ai abordé ça? Ben, moi, je travaille beaucoup, je fais des événements. Cette semaine, j'ai lancé mes deux masterminds. J'étais au Club St. James. Imagine si j'aurais pas eu un cheveu sur la tête et j'aurais animé toute la journée. Le regard des gens aurait été beaucoup plus « elle est malade » versus « je me sens très bien, j'ai très peu d'effets secondaires ». Alors, je l'ai abordé de la même façon que ma première journée à la maternelle, c'est-à-dire que je challenge le statu quo, si ça fait pas mon affaire, je vais m'organiser pour que ça marche, puis je vais trouver des solutions. Fait qu'à l'aide de ces quatre femmes-là, j'ai réussi à faire mon propre protocole qui est j'ai lu tous les livres que Sophie m'avait recommandés. J'ai parlé avec Jasmine Marcoux qui m'a dit, écoute, non, tu peux faire le casque. Alors, c'est de jamais se laisser abattre par les obstacles, mais de faire d'un obstacle une victoire. Et moi, c'est comme ça, je le vois, et c'est pour ça que j'adore le livre que Sophie Reiss va également sortir cette année, qui est « Un cancer en cadeau ». Et la vie m'a fait un cadeau parce que je suis quelqu'un de passionné, je roulais à 100 000 à l'heure. On dirait que j'étais pas capable d'arrêter, puis j'étais toujours en quête de quelque chose. Mais là, c'est comme si la vie s'est comme arrêtée momentanément et c'est devenu un film. Et là, je regarde le film et je prends le temps d'écouter le film qui est devant moi. Et c'est extraordinaire. Alors, les meilleures pratiques qui ont été mises en place, comment je l'ai affronté? Ben, c'est un jeûne pendant la chimio. C'est de la neurostimulation. C'est de l'acupuncture. C'est de la médecine fonctionnelle pour des suppléments. C'est d'avoir un conjoint extraordinaire qui a d'ailleurs été sur votre podcast, Éric Naman de Damotech, qui est mon capeur en chef. Donc, il va être avec moi pendant une journée de temps où il va me mettre le casque 50 minutes avant ma chimio. Pendant la chimio et 6 heures après, le changement de casque se fait aux 25 minutes à moins 30 sur ma tête. Mais aujourd'hui, c'est une très grande fierté de dire je n'ai pas perdu un cheveu. Je travaille à mon rythme. Tu sais, quand la semaine que j'ai mon traitement, je vais prendre ça très relax. Mais sinon, j'ai aucun problème à fonctionner, à travailler. Et puis, je me gêne pas pour partager sur les réseaux sociaux un peu cette histoire-là. Encore dans la dichotomie d'hypercroissance, là, humaniser l'hypercroissance. Tu peux être humain, malade, vivre quelque chose de dur, puis tu peux travailler puis réaliser des grandes choses. Fait que moi, je me sens sur mon X comme jamais dans toute cette puissance-là d'inspirer puis de changer la vision des ça. On peut-tu mettre des photos de quelqu'un qui a le cancer sans avoir plus un cheveu sur la tête? T'sais, regarde n'importe quel dépliant à l'hôpital, là, ils ont tous pas de cheveux. Là. T'sais, c'est depressed. Là. T'sais, c'est comme tu te sens malade. Je me sens pas malade. Je sens que je dois mettre un gros focus sur ma santé, que mon protocole est important, mais je vais sortir encore plus forte de cette épreuve-là.
C'est tout à ton honneur, Cléo. C'est tout à ton honneur et je pense que clairement aujourd'hui, ce que tu as dit, ce que Sophie nous a dit l'année dernière, s'il y a des femmes, bien entendu, qui nous écoutent, ou même des hommes qui vivent des situations difficiles, écoutez ce que tu nous as dit, ça va clairement être de l'inspiration qu'on va pouvoir intégrer un petit peu si on a des défis difficiles, complexes qu'on va avoir à vivre dans nos vies. Peut-être sur une note plus positive, j'aimerais ça terminer. Cléo, ben positif, dans la manière que tu nous le présentes, c'est positif, c'est inspirant. Le bon terme ici, c'est inspirant et je te remercie pour ça. Mais pour terminer, Cléo, comment on peut en apprendre plus sur toi? Je pense que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils veulent connaître c'est quoi vraiment l'hypercroissance, le podcast Hypercroissance, on parle un petit peu d'hypercroissance, mais c'est Cléo qui a le mouvement Hypercroissance, qui humanise l'hypercroissance. Comment qu'on fait pour travailler avec toi? Comment qu'on peut en apprendre un petit peu plus sur ce que tu fais?
Ben dans le fond, je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr que mon LinkedIn, Cléo Maheu, tu sais, puis je prends le temps de répondre aux gens. Puis je te cacherai pas avec les posts que j'ai fait là, parce que j'ai fait un post il y a 2 semaines. J'ai marqué parce que le médecin m'a dit, madame, avez-vous une perruque? J'ai dit non, j'ai pas une perruque, je fais les casques réfrigérants. Ça fait réagir les gens et j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent sur mon LinkedIn. Et depuis la semaine dernière, j'ai aidé 5 femmes à avoir le casque réfrigérant. Fait que tu sais, l'idée là, c'est que si on peut faire tranquillement lancer le mouvement de l'hypercroissance, mais autant dans le bien-être et si jamais on a une maladie et dans le mouvement d'hypercroissance, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr que mon site hypercroissance.com, j'ai plein d'outils, plein d'événements, j'ai des conférences, j'ai des podcasts, la formation, les livres. Donc, tout est disponible là. Donc, LinkedIn, le site web, les réseaux sociaux, on essaie vraiment de partager des outils gratuits, vraiment toujours dans le but d'inspirer d'inspirer puis d'aider les entrepreneurs à jumeler ces deux dichotomies-là de l'humain et de la croissance qui, pour moi, vont très bien ensemble.
Fantastique. On va mettre un lien dans les notes de l'épisode. Cléo Maheu, merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été inspirant. Je suis convaincu que notre audience pourra en témoigner. Merci beaucoup de ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.
Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hyper Croissance.